Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier.
Bonjour à tous, je suis Étienne Pommier, expert en vin des caves du lac à Annecy, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Histoire de vin. Dans ce podcast, je vous ferai découvrir le monde du vin à travers des voyages, des vignobles réputés aux terroirs les plus insolites, des dégustations des plus grands crus du monde aux vins de plaisir faciles à ouvrir, et des portraits des femmes et des hommes qui font le vin, sa culture et son histoire. Et n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que tous les vins sont à consommer avec modération. Pour ce premier épisode, j'ai choisi de commencer par un portrait et de vous raconter l'histoire de celui qui est considéré comme le plus grand faussaire en vin de tous les temps, Rudy Courniawan. Pour bien comprendre cette affaire, je vais d'abord vous raconter l'histoire de ce faussaire depuis son ascension et ses années fastes jusqu'à sa chute en 2012. Et dans un deuxième podcast, je reviendrai plus en détail sur les mécanismes de cette gigantesque escroquerie, ceux qui en ont été les victimes ou au contraire qui ont encouragé, voire aidé Courniawan dans son entreprise. Pour réaliser ce podcast, je me suis basé sur le livre In Vino Duplicitas de Peter Hellman, publié en 2017 chez l'éditeur new-yorkais The Experiment, et je me suis aussi basé sur les minutes du procès, ainsi que les pièces à conviction saisies par le FBI et répertoriées par l'experte américaine Maureen Donnet, que je remercie au passage. Voici donc la première partie de l'histoire de Rudy Courniawan, le faussaire des grands crus. Nous sommes le 10 décembre 2013, en plein cœur de New York, au numéro 500 de Pearl Street, dans la salle d'audience 12D du tribunal fédéral de Manhattan. L'homme qui se tient au milieu du prétoire a la quarantaine. Il porte beau avec son costume sombre bien taillé et ses cheveux un peu grisonnants. C'est le vice-procureur fédéral Jason Hernandez. En face de lui, à la barre des témoins, se tient l'agent spécial James Wynn du FBI qui raconte la perquisition du 8 mars 2012 dans la banlieue de Los Angeles.
Quand nous sommes entrés dans la maison, il y avait des bouteilles partout sur le plancher et les étagères. Des caisses de vin étaient empilées dans l'entrée et les fenêtres étaient recouvertes de papier d'aluminium pour cacher au regard des passants l'intérieur de la maison. Des bouteilles trempées dans l'évier de la cuisine, on pouvait voir des outils pour extraire les bouchons et des tiroirs remplis d'étiquettes de domaines prestigieux et de grands négociants.
En tout, les agents découvrent plus de 19 000 étiquettes artificiellement vieillies, copiant les plus grands vins du monde, des dizaines de pots de colle et de cire à cacheter, des piles de papier anciens, des seaux remplis de vieux bouchons, des pochoirs, des tampons pour recréer les marquages des bouchons et des caisses bois, et plus de 200 fausses bouteilles en cours de fabrication. Alors quand l'avocat de la défense explique que son client avait rassemblé ses étiquettes pour tapisser les murs de sa nouvelle maison en guise de décoration, des rires éclatent dans la salle et le juge Richard Berman a du mal à cacher son incrédulité. Il faut dire que la tâche de l'avocat Jérôme Mounet est insurmontable, tant les preuves accumulées contre son client sont accablantes. Son client, justement, il est là, assis au banc des accusés. C'est un Indonésien de 37 ans, aux cheveux noirs, courts, coiffés sur le côté, qui porte des lunettes rectangulaires à l'épaisse monture noire. Devant le public et les jurés, il a l'air détendu et ne semble pas vraiment se rendre compte de l'enjeu du procès. Il risque pourtant 40 ans de prison pour fraude, contrefaçon et recel. Cet homme, c'est Rudy Courniawan, et il est considéré comme le plus grand faussaire en vin de toute l'histoire. Comme de nombreux escrocs, il s'est construit au fil des années un personnage et une réputation de grand collectionneur de vin, grâce à un entregent exceptionnel et un habile tissu de mensonges qui lui ont permis de tromper des acheteurs, des experts et des marchands, non seulement aux États-Unis, mais aussi à Londres ou à Hong Kong. Alors qui est-il? Tout d'abord, il ne s'appelle pas Rudy Courniawan, mais Zheng Wanrong. Il est né le 10 octobre 1976 à Jakarta, et c'est son père d'origine chinoise qui lui obtiendra un passeport sous ce nom d'emprunt. Il arrive aux États-Unis au milieu des années 90 sous visa étudiant, et poursuit ses études à l'Université de Californie. En 2001, il a 25 ans, et s'installe avec sa mère dans une jolie maison blanche au 9638 East Naomi Avenue, à Arcadia, dans un quartier résidentiel à majorité chinoise de la banlieue de Los Angeles. C'est vers cette époque qu'il découvre le vin en goûtant la production californienne et dira plus tard que sa première émotion était un Opus One 1995, qui est un grand cru de la Napa Valley. À Los Angeles, il rencontre deux marchands de vin, Kyle Smith et Paul Wasserman, qui travaillent à la Woodland Hills Wine Company et qui l'initient au vin de Bourgogne et de Bordeaux. Il commence bientôt à acheter de manière presque compulsive, tant chez les marchands que lors de ventes aux enchères, où on le voit de plus en plus régulièrement. Et il n'est pas rare qu'il dépense plus de $500,000 par mois en achat de vin. En 2001, il dépose une demande d'asile pour pouvoir rester aux États-Unis, qui lui sera finalement refusée en 2003. À partir de ce moment-là, il est donc en situation illégale sur le territoire américain. Au début des années 2000, il rencontre un commissaire-priseur aussi jeune et ambitieux que lui, du nom de John Capone. Capone est le fils d'un marchand de vin new-yorkais qui, après avoir tenté sans succès de devenir producteur de hip-hop, est revenu dans la société familiale qui s'appelle Acker Merrill & Condit. Capone ambitionne de transformer ce caviste historique de l'Upper West Side fondé en 1820 en une grande maison d'enchères internationale. Grâce à lui, Kurniawan va rencontrer de grands collectionneurs new-yorkais prêts à dépenser des fortunes pour acquérir comme des trophées les cuvées et les millésimes les plus rares. Ils forment un club, appelé les 12 hommes en colère, et se réunissent lors de dîners extravagants où chacun amène ses bouteilles, en plus des vins commandés au restaurant, pour des additions qui peuvent dépasser $20,000 par personne. Chacun adopte un surnom. Il y a Big Boy, le Cardinal, le Punisher. Pour Rudy, ce sera Dr Conti, en référence à la Romanée Conti qu'il décrit comme son vin favori, ou Mr 47, pour le millésime légendaire et dont sa cave semble pourvue d'une réserve inépuisable. Il l'appelle sa cave magique. Dans une interview au Los Angeles Times parue en décembre 2006, il révèle posséder environ 50 000 flacons et explique que c'est John Capone qui le conseille et l'oriente dans ses achats. « C'est lui qui m'a fait rentrer dans le monde du vin. Il me dit quoi faire, quoi acheter, et maintenant, c'est comme un virus. » Cette cave magique fait des envieux parmi ses amis, qui le voit amener au dîner des bouteilles toujours plus rares et plus incroyables dans une atmosphère que le journaliste Paul Hellman du Wine Spectator décrira comme des combats de coqs. Des soirées où la dégustation des vins les plus exceptionnels est presque moins importante que le fait de montrer qu'on peut trouver et se payer ces bouteilles rarissimes. Comme sur cette photo, on le voit Rudy Kurniawan, le sourire aux lèvres, se faire servir une Romanée Conti de 45, probablement contrefaite, dans un verre à bière. C'est à qui amènera le vin le plus introuvable et à ce petit jeu, Rudy prend rapidement l'ascendant grâce à sa fameuse cave magique. Pour se fondre dans ce groupe de jeunes collectionneurs fortunés, Rudy adopte leur code et leur style de vie. Patek Philippe Nautilus au poignet, American Express Centurion en poche, Kurniawan dépense pour plus de $500,000 de costumes Hermès en 2 ans. Il achète une villa pour $8 millions à Bel Air, dans un des quartiers les plus chics de Los Angeles, et roule en Lamborghini. Il acquiert des œuvres d'art de Damien Hirst et Andy Warhol. Dans le film In the Air, réalisé en 2009 par Jason Reitman, le personnage interprété par George Clooney cherche à tout prix à atteindre l'objectif des 10 millions de miles sur la carte de fidélité de sa compagnie aérienne pour devenir l'un des premiers à le faire. À titre de comparaison, en 2008, à tout juste 32 ans, Kurniawan a déjà 26 millions de miles sur sa carte et il aurait pu faire le tour du monde en première classe sans débourser un centime. Pour l'anniversaire de sa mère, il privatise le restaurant Mélis à Santa Monica et au milieu de la soirée, l'un de ses invités, l'acteur Jackie Chan, prend un magnum de Petrus, monte sur la chaise et lance à travers la pièce. « Rudy, c'est le meilleur !» Tous ceux qui l'ont côtoyé à cette époque le décrivent comme charmant, attachant et généreux. Il a de l'argent, Rudy, il a une belle cave et il aime partager. D'où vient cet argent? Mystère. Quand on lui pose la question, il élude le sujet, mentionne vaguement une affaire de distribution de bière en Asie, mais sans révéler ni ses origines, ni la source de la fortune familiale, qui, selon ses explications, lui verse une rente de 1 à 2 millions de dollars par mois. En 2006, il décide de mettre aux enchères une partie de sa cave lors de 2 ventes organisées par Acker Merrill & Condit et son comparse John Capone. Capone appelle ces 2 ventes la cave 1 et 2, et présente la collection de Rudy Kurniawan comme probablement la plus belle cave de la planète. En tout, 12 000 bouteilles pour plus de 35 millions de dollars. Parmi les lots les plus prestigieux, deux caisses de 12 bouteilles de Mouton Rothschild 1945 vendues pour 155 000 dollars chacune, un Mathusalem de 6 litres de Romanée Conti 1978 pour 125 000 dollars, 6 magnums de Cheval Blanc 1947 pour 119 000 dollars, ou encore 6 bouteilles de Bonnemar 1923 du domaine Roumier pour 113 000 dollars. À elle seule, la cave 2 génère près de 25 millions de dollars, battant ainsi le précédent record pour des enchères de vin datant de 1999, et elle reste à ce jour la plus grosse vente de vin jamais réalisée au profit d'une seule personne. Mais déjà, le vernis commence à se fissurer et des doutes émergent parmi les collectionneurs sur l'origine et l'authenticité de certaines bouteilles présentées par Rudy. On s'étonne qu'il demande au sommelier des restaurants où il organise ses dîners de lui renvoyer par FedEx les bouteilles vides, non lavées, et avec les bouchons, soi-disant pour faire des photos. Et surtout, c'est la profondeur apparemment inépuisable de sa cave qui étonne les amateurs les plus avertis. Des amateurs qui collectionnent depuis des décennies et qui sont très au fait de la rareté des plus vieux millésimes et de la difficulté à trouver ces bouteilles sur le marché. En avril 2007, le catalogue de la vente Christie's organisé à Los Angeles présente en couverture deux magnums d'un grand vin de Pomerol, le Château Le Pin 1982, consigné par Rudy Kurniawan. À la vue du catalogue et réalisant la contrefaçon, le domaine alerte la maison d'enchères et demande que les bouteilles soient retirées de la vente. La même année, le milliardaire américain William Corr porte plainte contre un autre collectionneur, Eric Greenberg, qui l'accuse de lui avoir vendu des faux et dépose une seconde plainte en 2008 contre la maison Acker qui a réalisé cette vente. On apprendra plus tard que les bouteilles en question provenaient de la fameuse cave magique dont Greenberg avait racheté une partie à Kurniawan. Mais c'est en 2008 que l'étau va commencer à se resserrer autour de Rudy à l'occasion de la vente Acker du 25 avril à New York. C'est le collectionneur américain Douglas Barzelay qui soulève le voile quelques jours avant la vente. Intrigué de voir au catalogue des millésimes inédits de plusieurs grands crus de Bourgogne du domaine Ponceau, et notamment plus de 30 bouteilles de Clos Saint-Denis de 1945 à 1971, il contacte le propriétaire du domaine, Laurent Ponceau. Le premier millésime de Clos Saint-Denis produit par le domaine est 1982, donc il est impossible que ces bouteilles soient vraies. En épluchant le catalogue, le vigneron se rend compte que sur la centaine de bouteilles du domaine mises en vente, une seule est potentiellement vraie. Ulcéré, il appelle Acker Merlin Condit et demande à John Capone que les lots soient retirés de la vente. Celui-ci rechigne, mais finit par accepter sans conviction. Alors pour s'assurer par lui-même que les bouteilles ne soient pas vendues, Laurent Ponceau prend l'avion pour New York, débarque au milieu de la vente, et ce n'est que lorsque Capone, qui ne l'a jamais rencontré, est averti que le vigneron est présent dans la salle, qu'il informe l'assistance que toutes les bouteilles du domaine, estimées à un total de près d'1 million de dollars, sont retirées de la vente. Dans les jours qui suivent, Laurent Ponceau retrouve Douglas Barzelay, John Capone et Rudy Kurniawan à déjeuner dans un grand restaurant new-yorkais et demande des explications au commissaire-priseur et au vendeur des bouteilles. Les explications de Kurniawan sont vagues. Il dit ne pas garder de traces de toutes les bouteilles tellement il achète de vin et qu'il faut qu'il vérifie dans ses archives. Ses atermoiements et son comportement plutôt fermé durant l'entretien interpellent le vigneron, qui se dit que son interlocuteur n'est peut-être pas qu'un collectionneur lui-même floué, mais qu'il a peut-être partie liée avec le ou les faussaires. Ses soupçons sont confirmés quand il le recroise à Los Angeles 3 mois plus tard et que le jeune Indonésien lui indique que les bouteilles lui ont été vendues en Asie par un certain Pak Hendra et lui donne 2 numéros de téléphone. On apprendra plus tard que le nom Pak Hendra est bidon et que les numéros de téléphone correspondent à une hotline de la compagnie low-cost indonésienne Lion Air. À partir de là, le vigneron va se mettre à enquêter et à tirer de nombreux fils qui l'amèneront des États-Unis en Asie en passant par la Bourgogne et la Scandinavie. Durant près de 2 ans, à ses frais, il cherche des indices, remonte les pistes, sans savoir que de son côté, le FBI a aussi commencé à s'intéresser à Kurniawan. En 2009, ayant appris que les fausses bouteilles qu'il avait achetées aux enchères provenaient de Kurniawan, le collectionneur William Corr dépose une plainte contre lui et le vent commence à tourner pour le docteur Conti, qui est désormais montré du doigt aux États-Unis. Pendant ce temps, le FBI poursuit son enquête et entre en relation avec Laurent Ponceau qui leur transmet les résultats de ses investigations. Des documents qui corroborent les éléments de l'agence et pointent Kurniawan comme un faussaire potentiel. En février 2012, alors qu'une nouvelle vente aux enchères est organisée le 8 février à Londres par la maison anglaise Vanquish Wines et son homologue américaine Spectrum Wine Auctions, l'avocat et collectionneur américain Don Conwell publie sur le blog Wine Berserkers un long article émettant des doutes sur certaines bouteilles apparemment consignées par Rudy via un prête-nom dénommé Antonio Castanos. Parmi les lots, deux bouteilles de Romane Conti 1978 portant une étiquette du marchand londonien Percy Fox, mais dont l'adresse présente une faute d'orthographe. Face à ces soupçons, Vanquish et Spectrum nient catégoriquement que les bouteilles proviennent de Kurniawan, mais les retirent finalement de la vente. Castanos, le propriétaire d'un restaurant à Los Angeles qui touchait une commission pour son rôle d'intermédiaire dans la transaction, témoignera au tribunal qu'il représentait bien les intérêts de Rudy et que les deux marchands étaient parfaitement au courant de l'origine des bouteilles. Quelques semaines plus tard, Rudy était arrêté devant sa maison d'Arcadia et les enquêteurs découvraient son atelier de production. Devant les policiers, il choisit de se taire et assiste sans rien dire à la mise au jour de son escroquerie par les agents du FBI. Soucieuse d'éviter une possible fuite à l'étranger, les autorités le placent en détention préventive, sans possibilité de libération sous caution, dans l'attente de son procès prévu en décembre 2013. Pendant les débats, certains des producteurs contrefaits par Kurniawan viennent témoigner à la barre, comme Christophe Roumier qui explique que le fameux lot de 6 bouteilles de Bonnemar 1923 vendu à l'occasion de la cave 2 pour plus de $110 000 ne peut pas exister, étant donné que le domaine n'a commencé à produire qu'à partir de 1924. Aubert de Villene, co-gérant du domaine de la Romane Conti, et Laurent Ponceau viennent eux aussi témoigner, tandis que l'expert Michael Egan déconstruit les méthodes de fabrication de Kurniawan à partir des éléments saisis chez lui. Les étiquettes, par exemple, étaient artificiellement vieillies, notamment en les passant au four, pour jaunir le papier. Les bouteilles étaient parfois simplement re-remplies avec un mélange d'autres vins pour donner le change. Par exemple, pour contrefaire un Mouton Rothschild 1945, Kurniawan assemblait 50% de Château Causse d'Estournel 1988, un grand cru de Saint-Estèphe, avec 25% de Château Palmer 1990, un autre grand cru de Margaux. Et il terminait par un cabernet californien des années 2000 pour donner à l'ensemble le fruité intense et étonnamment frais qui impressionnait tous ses clients. Pour contrefaire une Romane Conti des années 50, il mélangeait des millésimes récents de Pinot Noir californien avec des vieux Bourgognes un peu fatigués et un peu oxydés qu'il rachetait à bas prix. Après une semaine de débat, Kurniawan est déclaré coupable de fraude par les jurés et il sera condamné à 10 ans de prison, 20 millions de dollars d'amende et 28,4 millions de dollars de dommages et intérêts aux plaignants. À l'issue du verdict, il ne manifeste pas beaucoup d'émotion, mais lui qui avait plaidé non coupable et pensait s'en sortir, semble commencer à réaliser. Il ne fait pas appel du verdict et repart en prison à l'issue du procès. Voici donc l'histoire de Rudy Kurniawan telle qu'elle est apparue dans la presse à l'époque, celle d'un jeune dégustateur surdoué qui est devenu le plus grand faussaire de toute l'histoire. Mais il reste de nombreuses zones d'ombre dans cette affaire. Kurniawan était-il vraiment un surdoué du vin et un génie de la dégustation? D'où provenait l'argent qui lui a permis de commencer à collectionner et à contrefaire des grands vins? A-t-il vraiment confectionné des milliers de bouteilles tout seul dans sa cuisine? Ou avait-il des complices? Et que dire des marchands, experts et autres collectionneurs qui ont vendu ces bouteilles, authentifié les vins et vanté ces cuvées improbables dans leur dégustation? Étaient-ils les victimes du faussaire? Ou certains ont-ils encouragé, voire aidé Kurniawan pour leur propre profit? Pour répondre à toutes ces questions et découvrir ce que sont devenus les acteurs de cette histoire aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de ce podcast sur Rudy Kurniawan, le faussaire des grands crus.